votre émission littéraire présentée par Mona.
Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Raymond Hiss, un Lorrain, pour un recueil de nouvelles des Gardes-Rêves. Bonjour Monsieur Hiss.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter, nous parler un peu de vous ?
Bien, de moi et de mes écrits surtout. Donc, j'écris depuis une trentaine d'années. Et j'ai commencé par écrire essentiellement des nouvelles dans les genres fantastiques, science-fiction, etc. Ce qui fait qu'on m'a catalogué un peu vite comme un auteur de science-fiction, mais je n'écris pas que ça. Donc, j'ai eu la chance d'une certaine manière d'être publié assez rapidement dans des revues. Alors paradoxalement, ça a commencé au Québec, ça a suivi en Belgique et j'ai fini par être édité, par être publié en France. Tout peut arriver. Donc j'ai essentiellement publié des nouvelles, donc des textes courts, que j'ai maintenant, depuis quelques années, rassemblés dans des recueils, dont Les Gardes-Rêves qui viennent de sortir. Mais j'ai également à mon tableau de chasse quand même quatre romans qui ne relèvent pas ni de la science-fiction ni du fantastique. Donc je suis un peu multicarte, j'écris un petit peu dans tous les genres. Et je dois préciser non plus que j'ai commencé à écrire très tard. Je n'avais pas au départ, comme beaucoup de gens que je rencontre qui écrivent depuis l'âge de 8 ans, je n'ai pas eu cette chance ou cette possibilité. Donc j'ai commencé à écrire relativement tard et bon, depuis je n'ai plus arrêté. Et je continue.
D'accord. Et alors pourquoi vous avez choisi ce genre littéraire de la nouvelle ?
Écoutez, je dis qu'au départ, quand on n'est pas, quand on n'a pas une vocation littéraire innée, bon, c'est quand même plus, ça paraît plus facile d'écrire des nouvelles que des romans. Ce qui ne veut pas dire que la nouvelle soit un genre plus facile. Il est plus exigeant encore quelquefois que le roman. Mais bon, on écrit un texte court, on l'envoie à une revue, ça marche, on continue, etc. avant de devoir se lancer dans les textes longs. Et puis j'avoue qu'au départ, les premières nouvelles que j'ai écrites, et d'ailleurs le tiers de celles qui figurent dans les Gardes-Rêves, sont issues, de, justement, comme son nom l'indique d'ailleurs, de rêves. Donc j'ai transcrit des rêves que j'avais faits. Mais les transcrire de manière littéraire, ce qui n'est pas évident non plus. Et bon, comme j'ai été publié assez rapidement, ça m'a encouragé quand même à continuer à écrire, et pour aller jusqu'au roman, quoi.
Et donc, c'est quoi les Gardes-Rêves, en fait ? Expliquez-nous.
Alors, Les Gardes-Rêves, bon, c'est le nouvel titre d'une des nouvelles du recueil, quoi. Donc, j'ai choisi le titre de cette nouvelle parce qu'il y a dans cette nouvelle des Gardes-Rêves. C'est l'histoire d'un personnage qui se promène dans des lieux différents et il se heurte à des personnages qu'on appelle les Gardes-Rêves. C'est l'histoire d'un rêve ou d'un rêve éveillé, mais qui fait appel, cette nouvelle, un petit peu à des choses assez bizarres. On tombe dans la bande dessinée. On rencontre le penseur de Rodin, on rencontre un Christ en croix assez spécial dans une cathédrale en ruine, etc. Et le titre, bon, j'ai trouvé qu'il correspondait mieux au recueil, puisque, comme j'ai dit, donc il y a le tiers des nouvelles qui sont des exploitations de rêves. Ce qui est toujours intéressant, parce que les écrivains, bon, je ne dis pas qu'ils font les 3-8, mais enfin, ils travaillent la nuit aussi, c'est très rentable. Et quand on arrive au réveil le lendemain matin à se souvenir du rêve et surtout à le retranscrire de manière littéraire en gardant quand même l'aspect flou un petit peu incohérent du rêve mais néanmoins suffisamment cohérent pour être accessible par le lecteur bien sûr.
Oui, bien sûr. Et il y a des écrivains qui vous ont influencé ?
Bon, j'ai, bien que n'ayant pas une formation littéraire à proprement parler, en deux mots, professionnellement, j'ai travaillé dans l'informatique. Donc on est loin de la littérature. Mais néanmoins, j'ai toujours été un grand lecteur depuis mon plus jeune âge. Et mes goûts ont toujours été des goûts relativement classiques. Bon, j'ai lu tout Chateaubriand quand j'avais 15 ans. Même l'illisible. Donc ça va de Chateaubriand à Céline, qui est un autre grand styliste dans un genre tout à fait différent. Et en fait, j'avais très peu lu. J'ai lu surtout de la science-fiction depuis que j'en écris et depuis que j'ai rencontré des auteurs éventuellement professionnels de science-fiction. Mais avant, je lis toujours des œuvres souvent très classiques, quoi.
Oui, d'accord. Eh bien, écoutez, avant d'aborder le vif du sujet, nous allons faire une petite pause musicale. Vous avez choisi « Tempête dans les bénitiers » de Georges Brassens. Pour quelle raison ?
Ben, c'est une... Ça m'a fait beaucoup rire. Je l'ai découverte sur Internet, je ne la connaissais pas du tout. Et puis, bon, disons que... Il a l'air de dire que le mystère n'existe que lorsque les gens qu'il recueille ne le comprennent pas, quoi. L'aspect ésotérique du latin rajoute au mystère, et la messe en français a perdu son charme, quoi. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il raconte dans sa chanson, quoi.
D'accord.
Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Je ne suis pas le seul morbleu, depuis que ces règles sévissent, à ne plus me rendre à l'office dominical que quand il pleut.
18h, 18h30 sur Fadjet, vous m'en lirez tant.
Alors nous sommes toujours avec Monsieur Is. Les Gardes-Rêves est un recueil de 32 nouvelles fantastiques, surréalistes, voire terrifiantes. Ce sont des nouvelles courtes, indépendantes les unes des autres, excepté celles qui portent le titre de votre ouvrage et qui comportent 10 nouvelles plus courtes, mais qui mettent en scène les mêmes personnages, Louis et Antoinette. Vous pouvez nous parler de ces deux héros ?
Alors Louis et Antoinette, les Gardes-Rêves, la nouvelle est un petit peu atypique, c'est-à-dire que j'avais en tête des petites séquences qui apparemment n'avaient aucun rapport entre elles, qui ne pouvait pas faire l'objet vraiment d'une nouvelle ou alors d'une ultra courte. Et puis j'ai trouvé un lien, c'est ce personnage qui recherche sa femme. Donc comme dans tous les rêves, il y a toujours deux niveaux. On présente au départ Louis et Antoinette comme des princes déchus, donc on voit à qui on pense automatiquement. Mais bon, Antoinette, elle est caissière dans un supermarché, dans un garden center, et il vient la chercher à la sortie de son travail pour la ramener chez lui. Mais il s'égare, alors on ne sait pas s'il s'égare dans des rêves, dans des réalités parallèles. Il commence par échouer dans un fast-food un peu spécial. Il rencontre un compteur d'enfants. C'est quelqu'un qui ressemble au compteur de Rodin et qui compte des enfants. Il est compte COMPTE, mais en même temps c'est un compteur d'enfants CONTER. Il rencontre ensuite, toujours à la recherche de sa femme, il rencontre des gardes-rêves qui sont des espèces de gens habillés comme des mousquetaires qui leur mettent sur le droit chemin, qui les envoient dans une cathédrale en ruine, où le Christ qui l'interviewe lui dit une chose absolument désagréable qui le terrifie. Donc il se sauve à la quatrième vitesse. Il rencontre un de ses anciens domestiques qui l'emmène sur un chariot, une carriole jusqu'à un hôtel. Et à l'hôtel, il rencontre un autre de ses gardes-rêves qui le met dans une chambre et qui lui dit surtout ne rêvez pas parce que vous pourriez vous réveiller dans le rêve d'un autre et vous perdre dans le rêve d'un autre. Mmh. Et finalement, il embarque sur un bateau à destination de l'Écosse, où il rencontre des personnages de Tintin de l'île Noire, un passager irascible qui s'est trompé de bateau, qui croyait partir pour en croisière pour les Antilles, et il atterrit finalement en Écosse, où il retrouve son Antoinette dans une espèce d'auberge assez sinistre, assez en ruine, et ils repartent le lendemain matin vers un ailleurs assez improbable, vers la frontière, dans ce qu'on appelle la frontière, et ils s'enfoncent dans le brouillard. voyez donc, il y a à la fois des aspects très réalistes et des aspects comme dans le rêve, où on passe d'une réalité à une autre. Le tout, c'est, quand on écrit une nouvelle à partir des rêves, c'est donner quand même une certaine cohérence, de façon à ce que l'histoire soit lisible par le lecteur, mais lisible à plusieurs niveaux. Quoi.
Oui, oui, bien évidemment. Sûr. Oui, j'aborderai ça, effectivement,
oui, oui, oui.
Tout à l'heure. Alors, il y a des nouvelles poétiques, je pense à Baiser volé. D'autres sont plutôt sanglantes, comme Les mains au mur, et certaines sont assez loufoques, comme Le quasi-bœuf. Ça vous amuse de mélanger les genres ?
Oui, bah déjà, bon, dans un recueil de nouvelles, il est quand même préférable de mélanger les genres. Sinon, ça risque de devenir d'être monotone pour le lecteur. Donc, des nouvelles horribles, j'en ai aussi, qui ne sont pas... Vous parlez des mains au mur, effectivement, qui se terminent de façon assez atroce. Mais là, comment naissent les nouvelles aussi ? Quelquefois, c'est... un flash. Bon, l'histoire des mains au mur, j'ai pensé à ça, j'étais en vacances, dans la chambre où j'étais, il y avait des taches sur le mur, des taches sur la tapisserie. Donc ça m'a donné une... Bon, j'ai gambergé à partir de là, et j'ai construit cette nouvelle à partir de là. Donc celle-là a été éditée chez De Noël, dans un recueil de nouvelles fantastiques chez De Noël à l'époque.
Mmh. Alors comme dans les livres rangés, André Laurence, le héros, est victime de l'imagination d'un écrivain doué de prémonition. Vous croyez à la prémonition ?
Non, je ne crois. Je crois à peu de choses, sauf en littérature. Donc, mais en littérature, on peut tout se permettre. Hein, on peut croire effectivement à la prémonition. Donc, comme dans les livres rangés, ce n'est pas les personnages qui se font. Les personnages s'enracinent dans un texte. Mais là, c'est une écrivaine un peu vicieuse, un peu satanique, qui écrit des livres. Et la réalité de ces livres finit par se réaliser dans la vie réelle. Quoi.
Oui, oui.
Et là, les personnages courent après pour essayer d'éviter la catastrophe qui se déclenche quand même à la fin. Donc vous avez un livre dans le livre, etc. C'est assez particulier aussi sur une base un petit peu historique aussi. Bon, on rencontre un général anglais qui a fait le débarquement de Normandie. Enfin, il y a toujours des personnages secondaires qui interviennent là-dedans et qui ont leur vie propre à l'intérieur de la nouvelle. Quoi.
Oui, oui. Mais cette nouvelle pose aussi la question du libre arbitre. Ça voudrait dire que nous ne sommes pas maîtres de notre destin ?
Oui, on peut le voir sous cet aspect aussi. Mais quand le général anglais raconte son aventure pendant la campagne de Normandie, effectivement, on a l'impression quelquefois que une autre personne peut être votre destin et prévoir votre avenir sans le savoir elle-même, quoi. Donc, et c'est cette rencontre fortuite qui déclenche l'aspect fantastique de la chose, quoi.
Mmh. Alors, dans La cicatrice, on croise des fantômes de révolutionnaires qui ont tous péri sur l'échafaud.
Oui.
Vous croyez aussi à la réincarnation ou c'est juste une vue de l'esprit ?
Ah non, je crois à très peu de choses et surtout pas à ces choses-là. Mais bon, c'est un thème littéraire. La littérature permet justement d'exploiter ces thèmes sans y croire absolument, quoi. Là, je me suis un petit peu amusé avec La cicatrice, avec des personnages historiques, mais qui ressurgissent dans un autre contexte, quoi. Charlotte Corday est serveuse dans un bar rue Saint-Honoré. Bon, enfin, là, il y a des aspects un petit peu... des télescopages assez marrants. Quoi.
Oui, 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 c'est ça. Oui. Il y a des fractures dans le temps, comme ça.
Oui, des fractures où des gens se réincarnent, mais pas du tout dans la situation qu'ils... Mais quand même dans un cadre où ils ont vécu. Quoi. Bon, ça se passe à Paris, rue Saint-Honoré, etc. Donc, le Robespierre ressort par la bouche du métro et il revient ensuite dans l'espoir de rencontrer Charlotte Corday.
Oui. Alors, vous donnez vie à des personnages imaginaires, comme ceux sortis de l'île mystérieuse de Hergé. Vous pensez que certains personnages peuvent quelquefois avoir une vie propre, indépendamment de la volonté de l'auteur ?
Oui, c'est-à-dire que je sais que j'ai écrit aussi Catus, un roman. Et bon, là, c'est un genre tout à fait différent, c'est une autre technique. Et quand je pars dans un roman, j'ai quand même mes personnages, j'ai mes petites fiches, j'ai mon scénario. Et souvent, je sais très bien comment le roman va se terminer. Souvent, d'ailleurs, c'est assez curieux, je connais la dernière phrase du roman avant d'avoir écrit la première. Donc, je sais comment boucler. Mais je me souviens d'avoir écrit un roman qui s'appelait Les passantes des quatre saisons, qui se déroule d'ailleurs dans l'Est de la France. Et j'avais cadré mes personnages. Et tout à coup, vers les deux tiers du roman, il y a un personnage auquel je n'avais pas pensé, qui a surgi brusquement, qui a été nécessité un petit peu par le scénario. Et ce personnage, que je n'avais pas prévu, s'est révélé être à la fin le personnage principal. et la fin, il a complètement changé, enfin elle, elle s'appelle Madeleine, et elle a complètement transformé la fin du roman. Le roman devait se terminer de manière un peu banale, je dis pas un autre boudin, mais presque. Et tout à coup, ce personnage qui est apparu a complètement changé. La fin a rebondi, l'histoire a rebondi, et a donné une toute autre teneur au roman. Donc quelquefois des personnages effectivement leur vie propre qui échappent un petit peu à l'auteur quoi.
Ah oui, d'accord. Alors j'ai beaucoup aimé Mémoire de guerre, mais dans chacune de vos nouvelles il y a un côté dérangeant. Dans celle-ci on veut effacer de force la mémoire des anciens concernant notamment l'histoire avec un grand H et on brûle les livres. Mais surtout je me suis posé la question de savoir s'il y avait un message subliminal, à savoir que nous allions perdre notre identité propre dans cette Europe qui est de plus en plus prégnante. Alors message subliminal ou pas?
On peut le prendre comme ça. Je me méfie aussi beaucoup de la littérature d'idées. Si on veut faire un texte sur des idées, qu'elles soient politiques ou sociales, bon, en général, ça donne un mauvais roman ou une mauvaise nouvelle. Bon, il vaut mieux écrire un essai ou un truc spécifique dans un autre genre. Et là, j'ai voulu joindre un petit peu les deux. On peut le prendre comme une histoire fantastique avec cette maîtresse d'école assez bizarre. Ça joue surtout plus sur les idées que sur les paradoxes, quoi. Le fait que des gens qui vont à l'école, ça se passe dans une école primaire, mais les élèves en fait sont des vieillards qui doivent désapprendre tout ce qu'ils ont appris à l'école, notamment la géographie, etc. Donc ça joue aussi sur ce paradoxe. Mais on peut le prendre aussi comme une idée subliminale, bon, à savoir qu'on essaye de nous faire oublier les départements, etc. Enfin, tout ce qui a constitué le socle de l'éducation qu'on a eu jusqu'à présent, quoi. Au profit d'une Europe un petit peu mythique, on oublie l'histoire aussi, on travestit l'histoire. Bon, on nous dit que Leningrad n'a jamais existé, enfin, c'est ce que dit la maîtresse.
Oui.
D'ailleurs, ça se termine très très mal pour elle.
Hein, effectivement.
C'est assez violent quand même.
Bon, on ne dira pas non plus qui est la maîtresse.
Oui, bien sûr.
Alors, vos personnages s'égarent souvent dans une histoire qui ne les concerne pas. Il y a justement cette fracture du temps. Vous croyez à la rencontre de mondes parallèles?
Dans la littérature, oui, bien sûr, oui. Bah, c'est l'histoire des mondes parallèles, notamment en science-fiction, c'est le béaba, disons, de la science-fiction, quoi. J'ai écrit beaucoup de nouvelles en science-fiction qui sont en même temps des voyages dans le temps.
Mm-hmm.
Et des télescopages entre des périodes différentes ou des gens qui ont voyagé dans le temps ou dans le futur, ouais, essentiellement dans le passé. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire, donc j'ai écrit des nouvelles qui se déroulent dans un contexte historique. Pas dans ce recueil, mais dans un autre, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelle Morne Plaine, où j'imagine, bon, c'est pas original, beaucoup d'autres l'ont fait avant moi, ce qui serait passé si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo.
Mm-hmm.
Mais je l'ai fait d'une autre façon, je l'ai écrit de manière littéraire, c'est-à-dire 30 ans après, on retrouve Stendhal à Civitavecchia, qui s'ennuie comme un rat mort dans son consulat, et dans une Europe où Napoléon a gagné la guerre, où son successeur, il y a un Napoléon II, etc. Il écrit une chronique, c'est-à-dire une histoire qui ne s'est pas passée comme elle s'est passée en réalité. Et en fait, il écrit la Chartreuse de Parme, mais il écrit la Chartreuse de Parme telle qu'il l'a écrite, c'est-à-dire qu'il commence par la défaite de Napoléon à Waterloo, c'est-à-dire que dans son contexte uchronique, il écrit lui-même une uchronie pour revenir à la réalité.
D'accord.
Et ce qui constitue tout l'intérêt de l'histoire, quoi, évidemment.
Oui, d'accord. Alors vos rêves, éveillés ou pas, donnent souvent le frisson et ressemblent plutôt à des cauchemars. Vous, vous rêvez comment ?
Bon, je fais des cauchemars comme tout le monde, mais ils ne sont pas toujours exploitables. Je sais que la première nouvelle qui avait été publiée au Québec, qui s'appelait Le Rat, qui n'est pas dans ce recueil, provient d'un cauchemar exactement. Donc, il s'agit souvent... Bon, les nouvelles qui proviennent d'un rêve sont à 80% exploitées dans le texte. Après, il faut aménager, il faut... La plus grande qui s'appelle « Ils étaient trois petits garçons », elle est à 90 ou 95%, c'est le rêve, quoi.
Ah oui.
Donc, et j'ai tenu à aménager... c'est une histoire qui est très linéaire, hein, ça se passe pendant la guerre, etc. Mais il y a un flou quand même qui subsiste, parce que dans mon rêve, c'était moi, et en même temps, il y avait trois personnages. et j'arrivais pas à distinguer lequel était l'autre. Il y avait un assassin, il y avait une victime, il y avait un troisième qui ressurgissait 20 ans plus tard, etc. Et j'ai voulu garder le flou dans l'histoire, c'est-à-dire que le narrateur, on ne sait pas qui il est à la fin.
Oui, c'est ça.
Et on garde l'ambiguïté jusqu'au bout. Mm-hmm. Donc, il faut arriver dans cette cohérence à garder quand même l'ambiguïté du rêve, tout cet aspect flou un petit peu incohérent, quoi.
Alors, chaque nouvelle a une phrase en exergue censée donner le ton de la nouvelle. Mais quelquefois, elle mystifie le lecteur. Ça vous amuse ?
Pardon ?
Parce que je dis des fois, la phrase qui est mise en exergue au début de chaque nouvelle, elle est normalement censée donner le ton de la nouvelle.
Oui.
Mais quelquefois, ça mystifie plutôt le lecteur.
Cette phrase en exergue, c'est pas mon invention, c'est une volonté de l'éditeur.
Ah, d'accord.
Donc il m'a dit, chacune des nouvelles, tu l'as fait précéder d'un une petite introduction. Donc j'ai voulu le faire aussi de manière décalée pour égarer un petit peu le lecteur ou par une manière de pirouette, quoi. Ça n'a pas du tout l'intention justement de résumer la nouvelle, sinon
ça
n'aurait aucun intérêt, bien sûr. Hein, oui. C'est un peu le pitch marrant au début d'une nouvelle qui est destiné à attirer l'attention du lecteur, quoi.
Bon, nous allons faire une deuxième pause musicale. Et donc, vous avez choisi « Je ne veux pas travailler » de Pink Martini. Pourtant, vous travaillez beaucoup.
Oui, mais je l'ai choisi parce que je l'aime bien. Et bon, c'est un rare exemple d'Américain qui chante des chansons en français. D'habitude, c'est plutôt l'inverse.
D'accord, nous écoutons.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier.
Alors, monsieur Is, quelle est votre actualité ?
Alors, l'actualité immédiate, à la fin du mois, je participe à un salon littéraire à Villers-les-Nancy, les 27 et 28 février, samedi et dimanche, le salon de la DIL, de l'Association de défense et d'illustration de la littérature lorraine. Donc, on peut y retrouver 70 écrivains. Ça se passe donc aux Écraignes, en face du château de Madame de Graffigny, rue Albert Ier. Donc je vous invite tous à ce week-end à venir faire un tour, à venir connaître des écrivains, essentiellement des écrivains lorrains. Et puis dans l'actualité, donc je participe à d'autres salons et puis dans la région. Je travaille également donc sur des prix littéraires, c'est-à-dire que j'ai monté avec Josette, mon épouse, et une écrivaine nancéenne, Nadia Harley, un prix qui s'appelle le prix Imaginaria. Et nous recrutons donc dans les domaines de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Nous faisons appel à des manuscrits. On dit plus des tapuscrits d'ailleurs parce que plus personne n'écrit à la main. Donc des tapuscrits et nous faisons appel donc à des écrivains et nous sélectionnons dans ce que nous recevons donc deux ouvrages éventuellement que nous faisons éditer depuis 2 ou 3 ans par un éditeur avec qui nous avons passé un contrat. Et actuellement nous avons changé d'éditeur, actuellement c'est les éditions Nerea d'Arroué. Donc il est encore temps jusqu'au 29 février si vous avez des... des ouvrages qui relèvent de ce genre, vous pouvez encore nous envoyer les tapuscrits. Vous avez toutes les informations, y compris le contrat. C'est un véritable contrat à compte d'éditeur. Et vous allez sur Internet, sur www.lacourdelimaginaire.com. La Cour de l'Imaginaire en un seul mot. Et vous aurez toutes les informations sur ce prix littéraire. Il y a ça, et puis dans les actualités, bah, d'autres ouvrages que j'ai en préparation. Donc j'ai deux ouvrages qui sont en lecture chez des éditeurs, un ouvrage de science-fiction jeunesse et un roman, donc une uchronie. Encore, on est encore dans les genres, toujours de l'imaginaire. Et je dois avoir aussi, oui, j'allais l'oublier, dans les projets, j'ai un ouvrage qui doit sortir au mois de mars aux éditions Les Parages, à Metz, qui est en fait une réédition d'un ouvrage que j'avais publié dans les années 90, qui est en fait sont des souvenirs d'enfance. Là, dont on n'est plus dans le domaine de l'imaginaire. Quoi.
D'accord. Et donc, votre livre, là, Les Garde-Rêves, sont édités par les éditions Rivière Blanche. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ?
Alors, on peut le trouver, c'est un éditeur du sud-ouest de la France. Il a un réseau de libraires, mais je ne sais pas s'il y en a éventuellement en Lorraine. Donc, on peut l'acheter directement chez l'éditeur, donc en allant sur le site internet www.riviereblanche.fr. FR ou .com, j'ai un trou, enfin un bon Rivière Blanche. On peut le trouver également sur Amazon ou sur la FNAC par Internet. Sinon, vous pouvez le commander dans Les Garde-Rêves, Raymond Hiss, édition Rivière Blanche, en allant chez un libraire. Les libraires commandent les ouvrages sans problème.
Bon, et puis de toute façon, vous serez au salon de Villers.
Oui, vous le trouverez au salon de Villers avec les 5 ou 6 autres ouvrages que j'ai publiés jusqu'à présent. Quoi.
Vous faites beaucoup de salons ?
Je fais les salons en Lorraine quand même. Je fais régulièrement le salon de Colmar aussi. Bon, je ne vais pas plus loin. Comme en fait, je fais régulièrement dans une dizaine de salons en Lorraine. Et dont, bon, ça c'est une annonce aussi. Je suis un des organisateurs aussi des Estivales de Metz. Un salon qui a lieu début juin, le premier dimanche de juin à Metz, Porte des Allemands. Mmh. Donc là aussi les dates, je ne sais plus si c'est le 5, je crois que c'est le 5 juin, enfin c'est le premier dimanche du mois de juin à Metz, avec d'autres écrivains régionaux également.
D'accord, et vous aimez rencontrer le public ? C'est un besoin ?
C'est un besoin, bon, dans la mesure où mes ouvrages, bon, leur diffusion en librairie est quand même quelquefois limitée, le meilleur moyen de les faire connaître, c'est quand même de faire les salons. C'est intéressant. On retrouve quelquefois des gens qui ont lu le précédent ouvrage l'année dernière. On voit les goûts un petit peu des gens. On peut discuter quand même avec le public. C'est intéressant, bien sûr. On voit un peu quels sont leurs goûts, quelles sont leurs préférences. Ça permet aussi quand même de parler du livre. Quelquefois, dans certains salons, les auteurs ont fait une petite conférence à côté, donc ça permet de l'ouvrage également. Oui, c'est essentiel plutôt que de rester chez soi et d'attendre que le bouquin soit vendu en librairie. C'est vrai que c'est intéressant. Quoi.
D'accord. Vous pouvez nous donner les titres de vos ouvrages qui sont déjà parus en quelques minutes parce que
Oui, alors en prenant l'ordre chronologique, donc est sorti en 2009 L'île aux immortels, qui est un roman d'aventure historique qui se passe en Chine, avec les personnages traditionnels de la littérature chinoise, donc on est encore dans un autre genre. Le second, l'année suivante, c'est Les Passantes des Quatre Saisons, c'est celui dont j'ai déjà parlé, qui se passe dans l'Est de la France. C'est un roman de jeunesse hein, qui se passe dans les milieux étudiants, pour l'essentiel à Strasbourg, où Strasbourg est également un personnage important dans l'histoire. Et vous avez ensuite l'année suivante un recueil de nouvelles de science-fiction qui s'appelle Coup de Lune, avec pareil des nouvelles qui ont été publiées déjà dans des revues. Et ensuite, un roman qui s'appelle Le Grand Jeu, qui est assez particulier. Je prends 3 personnages à qui des événements fortuits viennent détourner leur existence, des grains de sable, comme ça arrive dans la vie. Mais au lieu de suivre une occurrence, on en suit plusieurs. C'est-à-dire que le lecteur se promène dans le livre et à la fin, il a lu 5 histoires différentes traitant tous des mêmes personnages. C'est assez étrange. Bon, j'avoue que j'en avais assez un peu d'écrire des bouquins qu'on lisait de la première à la dernière page. Donc je me suis dit, le lecteur, il va se balader dans le bouquin. Il va aller de la page 1 à la page 50, de la 50 à la 75, etc. Il se promène à l'intérieur du bouquin. Et puis le dernier roman, donc avant Les Garde-Rêves, c'est La Dame de Valomont, qui est un roman qui raconte l'histoire d'un couple qui redécouvre son passé à travers le récit d'un troisième personnage qu'il a très bien connu dans sa jeunesse. Donc il y a un roman dans le roman. Et en même temps, c'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas choisir entre 2 femmes. Voilà. Et bon, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ceux qui sont encore dans les...
Une minute
dans les cartons. Donc celui qui va sortir, Les Roses en Mantis, c'est une réédition d'un ouvrage que j'avais publié dans les années 90, donc il va sortir au Parage à Metz. Donc là, on est d'un genre tout à fait différent, ce récit d'enfance, souvenir d'enfance. Et ceux qui sont en préparation, donc il y a un roman de science-fiction jeunesse, ce qu'on appelle un roman post-cataclysmique, l'histoire de gens qui vivent dans une ville en ruine, l'histoire d'un jeune homme, roman d'aventure. Et l'autre, qui va s'appeler Le Bar des enfants de chez Sados, donc qui est toujours en lecture chez les éditeurs, c'est une uchronie. C'est une histoire qui est censée se passer de nos jours, mais dans une France qui a été complètement éclatée, où le Pays Basque, la Bretagne, l'Alsace, etc. sont devenus indépendants. Et c'est l'histoire d'une jeune basquaise qui a été éduquée dans un sens très particulier, qui s'imagine, par exemple, on lui a dit que Christophe Colomb que l'Amérique n'avait pas été découverte par Christophe Colomb, mais par des navigateurs basques, et tout à l'avenant, et qui va découvrir certaines choses. Ça se termine à Paris, où des mouvements politiques préparent ce qu'on appelle le retour.
D'accord. Bah, écoutez, monsieur Hiss, merci d'être venu, parce que l'émission arrive déjà à sa fin. Merci d'être venu nous parler de votre recueil. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir à tous et à bientôt.